Chapitre 60. Luttant contre une mer démontée, l'armada des Norukai progressait lentement vers l'estuaire du fleuve Chasse-Corbeau. Bénis par le sang de Yorick et la grâce du dieu serpent, 50 galères fendaient les flots, leurs voiles gonflées par un vent favorable. Dès que ce n'était plus le cas, Calvert faisait jouer du tambour, indiquant à ses sujets qu'il était temps de mettre à l'eau les avirons et de souquer ferme. Depuis toujours, le roi n'était pas connu pour sa patience. S'ennuyant sur son trône, il n'hésitait jamais à quitter le bastion pour aller chasser. Parfois, il lui arrivait de prendre un canot afin de s'offrir une excursion sur une île voisine. Après tout, pour qu'il le redoute, il fallait que les gens le voient. Teigneux de nature, il provoquait les chefs de clan, leur lançant des injures la bouche ouverte, comme s'il voulait leur arracher le nez avec ses dents. À grand renfort de provocation, il parvenait à les faire sortir de leur gonds. Parfois, un crétin au sang chaud tombait dans le panneau et le défiait pour lui ravir sa couronne. Bien entendu, tous ces imbéciles finissaient raide mort car ils ne les avaient pas choisis au hasard. Aujourd'hui, les îles des Norukai étaient désertes, puisque presque tous les guerriers naviguaient avec leur roi ou sous le commandement de Cor et de Lars, les capitaines en disgrâce. Mais sur ces galères-là, on trouvait un ramassis de miteux. Des ivrognes, des flambeurs ruinés ou des maris trompés qui ne pouvaient plus regarder en face leurs frères d'armes. Ces Norukai déchus, Calvert le savait, se battraient jusqu'à leur dernier souffle. Mais ce qui l'intéressait, c'était de se couvrir de gloire et de sang. Malgré ses sorciers et ses antiques défenses, Ildakar serait balayé par les Norukai car rien ne pouvait leur résister. Quand il en eut assez de se tenir à la proue en forme de gueule de serpent, Calvert décida d'arpenter le pont, son chaman sur les talons. Comme d'habitude, Crayeux débordait d'énergie.
« On vogue, on vogue, on vogue !» s'écria-t-il. « Et bientôt on massacrera. Je l'ai vu, Ildakar ne sera plus que poussière. Roi Calvert, pour eux, ce sera un calvaire. »«
Oui, je suis calvaire, et pour eux, ce sera un calvaire. »«
Les massacres sont pour bientôt, je le sens. »
L'albinos rit de bonheur. Mais ils étaient encore très loin de l'estuaire.
« Qui allons-nous massacrer ?»
En haute mer, ils ne risquaient guère de croiser des navires, et plus tard, quand ils caboteraient, les villages comme Renda-sur-Bay ne vaudraient pas le détour. L'armada visait beaucoup plus haut.
« Qui, je ne sais pas, mon roi Calvert ?»
Crayeux se décomposa, comme s'il avait trahi son souverain. Levant les yeux, il fixa le soleil si longtemps que son roi eut peur qu'il se brûle les yeux. Du coup, il le secoua par l'épaule. Comme s'il venait de se réveiller, Crayeux se frotta les yeux. Au bastion, il contemplait les flammes pour avoir des visions. Faute de cheminée, il semblait chercher l'inspiration au cœur de l'astre du jour. Même s'il soufflait dans le bon sens, le vent malmenait les galères. À part quelques traversées d'île en île, Crayeux n'avait jamais navigué. Les trois premiers jours, malade à en crever, il les avait passés au bastingage, occupé à rendre tripes et boyaux. Convaincu que le dieu serpent l'avait maudit, peut-être parce que le sacrifice de Yorick ne l'avait pas apaisé, le chaman avait même voulu se jeter à l'eau, mais son roi l'en avait empêché.
« Ce n'est pas le dieu serpent, »
avait-il dit,
« mais le mal de mer, tu sais que c'est très fréquent. »
Les meilleurs guerriers, ceux qui rêvaient jour et nuit de sang et de mort, pouvaient être victimes de cette affectation pernicieuse qui leur valait bien des ladzi des autres Norukai. Deux hommes s'étaient moqués de Crayeux au début du voyage. D'un coup de massue, Calvert avait défoncé le crâne de l'un d'eux avant de balancer son cadavre par-dessus bord. L'autre petit malin s'était jeté aux pieds du roi.
« Calvert, pardonne-moi. Au moins, laisse-moi mourir au combat. »
Calvert s'était tourné vers Crayeux.
« À toi de décider. Je le tue ?»
Verdâtre, pour autant qu'un albinos pouvait l'être, le chaman avait secoué la tête puis il était retourné vomir. Pour le garder en vie, Calvert s'était assuré qu'il boive assez. Après trois jours, l'océan s'était un peu calmé. Très vite requinqué, Crayeux était redevenu tel qu'en lui-même. Excité comme une puce, il avait hâte de voir la côte, le fleuve et Ildakar. Dans leur sillage, les galères tiraient des filets de pêche. Les poissons ainsi récupérés étaient tenus pour un présent du dieu serpent, et ils avaient bien meilleur goût que leur rata préparé dans la coquerie. Pour sa consommation personnelle, Calvert avait fait embarquer sa réserve de viande de Yaksen, un trésor qu'il n'aurait partagé pour rien au monde. Sans crier gare, Crayeux tira son roi par le bras, puis désigna l'eau grisâtre devant eux.
« J'ai vu, et tu vas voir aussi. Regarde, un massacre !»
Plissant les yeux, le roi ne vit rien du tout. Intrigués par les gesticulations de Crieux, quelques guerriers vinrent découvrir ce qui l'énervait ainsi, puis un cri monta d'une des autres galères.
« Là !»
cria Crieux.
« Nous massacrerons bientôt, je l'avais dit !»«
De Selka !»
grogna un guerrier debout à côté du roi.
« Majesté, sonde bien les vagues !»
Calvert écouta ce conseil et distingua enfin les silhouettes qui nageaient entre deux eaux. Pas des humains à l'évidence.
« Ouais, des Selka !»
cracha le roi révulsé.
« Je me demande pourquoi le dieu serpent ne les dévore pas tous histoire de nous en débarrasser. Ces saloperies souillent la mer !»
Calvert en avait les entrailles retournées. Monstres vicieux et sans honneur, les Selka avaient été humains dans un lointain passé. Depuis, ils nageaient en bande au service de leur abominable reine. Impitoyables, ils attaquaient tous les navires qu'ils tenaient pour des intrus. Avec leurs griffes d'acier et leurs crocs de fauve, ils commençaient par faire des trous dans la coque sous la ligne de flottaison. Si terrifiants qu'ils fussent, les Selka n'étaient pas invincibles. Pour en avoir tué 13 à la douzaine, Calvert le savait d'expérience. Mais quand ils s'attaquaient à un navire isolé, même les vaillants Norokai n'avaient guère de chance de s'en tirer. Souvent on retrouvait l'épave en haute mer, les voiles en lambeaux et le pont rouge de sang. En un mot comme en sang, Calvert abominait les Selka. Des cris montèrent de toutes les galères. Armes au poing, les Norokai se préparaient à une attaque. Penchés vers l'eau, certains s'amusaient même à narguer les monstres sous-marins, les défiant de passer à l'attaque.
« Trop nombreux !»
fit Crieux en secouant la tête.
« Trop nombreux !»«
Nous allons combattre !» répondit le roi. « Combien ils sont, je m'en fiche !»«
Non, mon roi Calvert, c'est nous qui sommes trop nombreux. Les Selka ont peur. S'ils attaquent, nous les tuerons jusqu'au dernier. Ils n'oseront pas !»
« Dans ce cas, ce sont des sages !»
grogna Calvert, déçu. Il avait vu une bonne centaine de Selka. Mais lui, il voguait avec des milliers de Norukai. Ivre de puissance, il nargua lui aussi les monstres des profondeurs. L'un d'eux jaillit de l'eau. À sa tenue vivement colorée, Calvert paria que c'était la maudite reine. Que n'aurait-il pas donné pour lui fracasser le crâne à coups de poing? À cette seule idée, il sourit aux anges. À la poupe de la galère, les guerriers décidèrent de remonter le filet, histoire de voir ce qu'il y aurait au menu du soir. Entendant leurs cris de surprise et de joie, Crieux sauta d'un pied sur l'autre comme un dément.
« Je l'avais dit, nous allons massacrer !»
Un Selka s'était pris au piège. Tentant de se glisser sous la coque pour la saccager, il avait fini avec les poissons et les crustacés qui enrichiraient la soupe du soir. Mais combien d'autres ignobles créatures rôdaient ainsi sous l'eau? Avec ses crocs et ses griffes, le Selka aurait pu se libérer, mais les guerriers l'en empêchèrent à coups de massue ou de hache.
« Ne le tuez pas tout de suite !»
s'écria Calvert. Les yeux en fente, le monstre sous-marin arborait une gueule de poisson qui ressemblait vaguement à la bouche élargie des Norukai, mais ces créatures n'étaient pas des enfants du dieu serpent. Même blessé, du sang dans les yeux, le Selka tentait toujours de frapper. Sans la moindre crainte, Calvert avança vers le filet. Quand il fut assez près, il cogna, visant le visage, et ses poings renfoncés de fer brisèrent des os qui produisirent un son répugnant. Sonné, le monstre cracha du fluide vital par la bouche et des ruisselets rouges coulèrent de son nez et de ses oreilles.
« Attachez-lui une corde aux chevilles et traînez-le jusqu'au mât de misaine !»
ordonna Calvert. D'instinct, il remit en place la lourde chaîne qui ceignait sa taille. Obéissant, les guerriers traînèrent le prisonnier jusqu'au mât, laissant dans leur sillage du sang et de la bave comme s'ils avaient capturé une limace géante. Campé à côté du mât, Calvert vit que des Selka s'étaient massés dans l'eau, juste hors de portée des galères. Malgré la distance, il sentit leur colère. Mais le maudit saboteur n'était pas un prisonnier de guerre. Il avait voulu saborder la galère et son châtiment serait à la hauteur de l'outrage. Un guerrier escalada le mât en tenant à la main la corde nouée à la cheville du Selka. Puis, il la jeta par-dessus la fusée de vergue. Bandant ses muscles, Calvert saisit la corde et tira jusqu'à ce que le prisonnier pende très haut dans les airs, la tête en bas. Comme un ver piqué sur l'hameçon d'un pêcheur, le Selka se débattit en hurlant de rage. Calvert attacha la corde à un anneau d'amarrage. Toujours déchaîné, le Selka tenta de se plier en deux pour atteindre la corde, mais il n'était pas assez souple pour ça.
Rohan de Selka,
cria Calvert à plein poumon.
Nous tenons un des tiens. Regarde ce que nous vous ferons à tous un jour très proche.
Le roi grimpa à son tour, s'accrochant au gréement jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur de la fusée de vergue où pendait le prisonnier. Ce dernier, fou de haine, tenta de le griffer, mais il était trop loin pour ça.
« Regarde, reine de Selka !»
Le roi sortit son couteau, dont le manche avait été taillé dans le squelette d'un serpent de mer échoué sur son île. D'une main, il tira le prisonnier vers lui, et de l'autre, il lui trancha la gorge en prenant soin de ne pas basculer dans le vide. Le prisonnier claqua des mâchoires, mais son cou n'était plus qu'une branchie géante d'où giclait du sang. Pendu par les pieds, le monstre se viderait très vite. En bas, Crayeux leva ses mains blanches pour recevoir l'écarlate manne. D'autres Norokais l'imitèrent, inclinant la tête en arrière pour être aspergés de sang de Selka. De son perchoir, Calvert vit les Selka frémir de rage, mais il ne serait pas assez fou pour attaquer l'armada. Quand la charogne fut vide, le roi coupa la corde et laissa le Selka se fracasser sur le pont. Puis il redescendit, sautant sur les derniers 5 ou 6 pieds. Penché sur la dépouille, il la décapita et brandit comme un trophée la tête aux yeux encore ouverts et à la gueule dégoulinante de sang et de bave. En esthète, il décida de l'afficher sur une pique à la proue.
« Je la garde pour ma collection. Le corps, jetez-le à l'eau sans détacher la corde et traînez-le dans notre sillage. Un avertissement pour ces créatures ignobles. »
Deux guerriers s'emparèrent du cadavre et le firent basculer par-dessus bord. Moins d'une heure plus tard, l'étrange longe se tendit au maximum puis se relâcha. Quand des guerriers la remontèrent, Calvert ne fut pas surpris de voir que le cadavre avait disparu, la corde coupée par des crocs acérés.